Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une Vierge concevra et elle enfantera un Fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel. Mes très chers frères, c'est aujourd'hui la fête de la maternité de la Bienheureuse Vierge Marie. En ce jour, l'Église célèbre d'une façon toute particulière la tenue du Concile d'Éphèse qui, contre l'hérétique Nestorius, a défini le dogme de la maternité divine de la Bienheureuse Vierge Marie. Nous avons plusieurs choses à voir aujourd'hui avec l'aide de Dieu. Premièrement, nous allons voir comment il faut, spécialement de nos jours, à notre époque, parler des mystères, certains mystères de la religion, et spécialement celui-ci. Parler des mystères de la religion, spécialement dans nos rapports avec les mécréants. Et nous verrons aussi à quel moment le Verbe divin s'est incarné. Et cela aura un rapport avec la prophétie d'Isaïe, dont vous venez d'entendre l'essentiel au début de ce serment. Le deuxième point nous mènera à voir comment notre Seigneur Jésus-Christ est devenu et s'est fait pour nous Emmanuel. Comment nous verrons comment croire aussi de façon à être sauvé par le Messie et comment honorer véritablement la Bienheureuse Vierge Marie, qui est la Mère de Dieu. Et enfin, nous terminerons en troisième point en voyant comment la Bienheureuse Vierge Marie nous mène à son Fils, ce qui nous donnera la clé du bonheur tant éternel que temporel. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Une Vierge concevra et elle enfantera un Fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel. Cette prophétie, mes très chers frères, d'Isaïe, est fondamentale puisqu'elle désigne, elle explique, elle annonce en termes extrêmement clairs le mystère de la naissance virginale du Messie. Et elle est corroborée par l'Évangile, elle est réalisée par l'Évangile qui nous en donnera le sens. Les Juifs contestent le sens que les chrétiens lui donnent en cherchant toutes sortes de subterfuges, mais en réalité, ils ne peuvent pas expliquer, même s'ils ont raison, et que ce n'est pas une vierge, mais une jeune fille quelconque, une jeune mariée éventuellement, qui concevra et enfantera un fils, ils sont incapables de rendre compte de la personne de cet Emmanuel, qui est totalement inconnu de tout l'Ancien Testament. Et ils ne peuvent pas non plus rendre compte du fait que Isaïe annonce ceci au roi Achaz comme un grand signe, un signe stupéfiant, un signe de la part de Dieu. Si chaque fois qu'une épouse tombe enceinte, c'est un signe de la part de Dieu, il y a des millions et des millions de signes de la part de Dieu. Lorsqu'Isaïe annonce ceci au roi Achaz, il l'annonce comme une merveille. Et c'est effectivement le merveille de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est né de la Bienheureuse Vierge Marie, par l'intervention du Saint-Esprit. Ces vérités que nous venons de dire impliquent que la Très Sainte Vierge Marie est en même temps non seulement la mère de l'homme, de l'humanité du Messie, de l'homme qui est le Christ, mais elle est aussi la mère du Messie en tant qu'il est Dieu. Et c'est pour avoir contesté cette vérité qui est reçue depuis la fondation de l'Église, depuis le commencement des temps, si j'ose dire, que Nestorius, qui était un prélat d'Orient, a été condamné par le Concile d'Éphèse, puisqu'il disait que la Très Sainte Vierge Marie était bien la mère de l'humanité du Verbe, mais qu'en aucun cas elle ne pouvait être dite la mère de Dieu, puisque elle n'a pas engendré la divinité. Évidemment, il y a toujours un peu de vrai en tout, un petit peu comme quand les Ariens insistent sur le fait que le Christ est un homme. Bien sûr qu'ils ont raison, mais ils ont tort quand ils disent qu'il n'est pas du tout Dieu. Eh bien, Nestorius ne disait pas la même chose que les Ariens, loin de là, il était beaucoup plus catholique, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il disait que le Messie est vrai Dieu et vrai homme, mais il disait que par rapport à son humanité, la Sainte Vierge ne pouvait être dite que la mère de l'humanité du Messie, et non pas la mère de Dieu, comme nous le disons couramment, et comme nous le disons depuis le début de la Nouvelle Alliance, puisque Sainte Élisabeth dit à la Sainte Vierge, comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne me visiter? Et donc, dans ces paroles de l'Écriture sainte, est réfutée l'hérésie de Nestorius, qui est une hérésie subtile, et qui est une hérésie qui semble vouloir faire une distinction pour ne pas trop attribuer à la Très Sainte Vierge Marie, ce qui est une bonne motivation, mais malheureusement, il se trompe, puisque en dissociant ou en séparant dans la maternité de la Très Sainte Vierge Marie le Verbe, donc Dieu de l'humanité, de l'humanité du Messie, eh bien, il opère une sorte de schisme entre les deux natures, de telle sorte que on pourrait être tenté de croire que le Verbe s'est en quelque sorte incarné dans un homme particulier, un homme spécial, un homme né d'une vierge, bien entendu, mais un homme spécial, et que le Verbe s'est ensuite uni à cet homme, ce qui est une hérésie. Ce qui est quelque chose de tout à fait inadmissible, puisque le Verbe s'est uni à l'humanité du Messie, de telle sorte que l'homme, Christ, est en même temps un vrai homme et un vrai Dieu, et que le Verbe incarné est véritablement le Christ, Jésus-Christ, notre Seigneur, il est véritablement Dieu, le Fils éternel de Dieu, et en même temps, il est véritablement homme. Il y a donc dans l'hérésie de Nestorius une subtilité dont nous ne voyons plus tellement la propos aujourd'hui, puisque c'était quelque chose qui posait problème à cette époque-là, en tout cas pour certaines personnes, et aujourd'hui, d'autres choses posent problème, mais peut-être pas celle-ci. Mais enfin, souvenons-nous des grandes hérésies, de telle sorte à pouvoir parer aussi des grandes hérésies de l'Antiquité chrétienne, de telle sorte que nous puissions nous-mêmes, lorsque dans ces temps qui sont les derniers, les hérésies apparaissent, être vigilants sous la conduite de nos pasteurs et que nous puissions aussi savoir rejeter l'hérésie comme nos pères l'ont rejetée. Donc, il est, mes très chers frères, maintenant que nous avons établi ce mystère en quelques mots, bien entendu, bien, il est une vérité d'ordre apologétique, d'ordre, si j'ose dire, comportemental même, pour nous qui vivons à notre époque. C'est que dans notre religion, il y a des mystères qu'il vaut mieux adorer que chercher à percer. Le danger, quand on veut évangéliser, et c'est une bonne chose que de témoigner de sa foi à son prochain, ça c'est une chose tout à fait légitime, le danger quand on tente d'expliquer à notre prochain, donc mécréant, en quoi consistent les mystères, et spécialement le mystère de la maternité divine, consiste à vouloir l'exposer d'une façon qui soit totalement rationnelle. Alors je ne dis pas qu'elle n'est pas ce mystère n'est pas susceptible d'une exposition rationnelle. Au contraire, les livres de théologie en sont pleins. La seule chose, lorsque au cours d'une conversation on cherche à exposer ce mystère à des mécréants, eh bien nous risquons d'en parler avec une familiarité indue, avec des mots vulgaires, c'est-à-dire des mots communs, et des mots qui prêtent aux impies la possibilité d'émettre envers nos dogmes les doutes qu'ils éprouvent, avec une certaine brutalité. Et s'il est une série de dogmes avec lesquels il ne faut prendre absolument aucune liberté, évidemment tous sont sous ce régime-là, mais spécialement ce sont les dogmes de la Très Sainte Vierge qui ont trait à la Très Sainte Vierge Marie, puisque ce sont des choses très subtiles, très particulières, très délicates, et nous devons préférer ne pas en parler plutôt que d'en parler mal. Et en parler mal, c'est en parler avec familiarité. Nous devons, et ça je dois le répéter parce que notre époque a changé, nous ne sommes plus il y a 100 ans, si j'ose dire, nous sommes dans un nouveau siècle, nous sommes dans une nouvelle époque, et il faut ouvrir les yeux pour voir avec qui nous vivons, aux côtés de qui nous vivons. Eh bien, il y a d'un côté une extrême vulgarité et une extrême grossièreté à notre époque, c'est-à-dire qu'on parle des choses dont on ne doit pas parler d'une façon très commune et d'une façon très vulgaire, et il y a aussi il ne faut pas oublier qu'il y a aussi diverses influences, l'influence par exemple de la prééminence de la perception du corps humain et des choses qui ont trait au corps humain d'un point de vue purement médicalisé, de telle sorte que l'on en parle avec en quelque sorte la vulgarité des médecins qui en parlent entre eux, si j'ose dire. Et il y a aussi l'influence de l'islam qui nous pousse d'une certaine manière, et puis bon, il y a aussi d'autres influences antichrétiennes, mais l'influence de l'islam qui nous pousse à traiter de ces choses d'une façon, disons, qui est à la fois, comment dire, il faut à la fois défendre nos dogmes et les rendre compréhensibles. N'entrons pas dans le détail, dans ce détail-là, ce n'est pas un cours d'apologétique, mais c'est plutôt pour dire que notre époque est une époque d'une extrême brutalité, d'une extrême vulgarité, et spécialement ces dogmes-là, nous devons plutôt nous contenter d'en parler très brièvement, plutôt que d'essayer de les exposer au risque de provoquer le rire, au risque de provoquer l'impiété et surtout la grossièreté. Il vaut mieux prendre un air grave, sans être pédant bien entendu, et dire « c'est le dogme et je n'en parle pas parce que vous n'êtes pas assez pur pour en parler », si j'ose dire. Bon, évidemment, ça peut faire rire les mécréants. En tout cas, ce qu'il faut, c'est qu'il faut le penser. Il faut le penser très fort et il faut le savoir. Les mécréants, c'est-à-dire tout le monde, les mécréants sont de la dernière vulgarité avec ces dogmes-là. Et ils s'imaginent qu'ils peuvent en parler selon la vulgarité qui leur est habituelle. Et donc, il nous faut, mes très chers frères, faire preuve d'un silence mesuré. Et c'est peut-être, de nos jours, la meilleure façon de procéder. De telle sorte que nous fassions sentir et ressentir la vénération que nous avons pour ces dogmes adorables et salvifiques, mais et en même temps que nous évitions de les profaner ou de les laisser profaner. Alors, on va dire, oui, mais il faut bien exposer notre foi. Il y a diverses façons d'exposer la foi, et la façon la plus convaincante, si j'ose dire, et si le bon Dieu le permet, la façon la plus convaincante, c'est d'être plein de vénération pour notre foi, et non pas simplement plein d'arguments. C'est une chose que d'avoir toutes sortes d'arguments pour répondre du tac au tac aux mécréants, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais c'en est une autre que, en quelque sorte, d'avilir nos dogmes en essayant d'en parler de la façon qui soit la plus accessible possible. Il y a certains dogmes qui ne sont pas accessibles à ceux qui n'adorent pas Dieu, à ceux qui ne vénèrent pas la très sainte Vierge Marie. Donc méfions-nous, mes très chers frères, méfions-nous de notre zèle apologétique, méfions-nous de notre langue, méfions-nous des habitudes qui sont celles de notre prochain à notre époque. Nous devons parler le moins possible de ces choses-là, non pas nous devons nous taire comme si c'était interdit, mais nous devons préférer à l'exposé rationnel du dogme la manifestation de la vénération que nous avons pour ces dogmes qui sont à l'origine de notre salut et sans lesquels nous ne pouvons pas être, sans la profession desquels nous ne pouvons pas être sauvés. L'intelligence, n'oubliez pas ceci, mes très chers frères, l'intelligence du moqueur est obscurcie. Elle est obscurcie parce que lorsqu'il se moque de quelque chose, cette chose se ferme à lui. Parce que les dogmes qui sont les nôtres sont des réalités vivantes. Lorsque nous parlons de la maternité divine de la Très Sainte Vierge Marie, eh bien la Très Sainte Vierge Marie est au ciel où elle règne avec son Fils. N'oublions pas, mes très chers frères, que l'intelligence de l'hérétique est sous l'influence du démon. Donc lorsque l'hérétique va parler de nos dogmes, il va blasphémer. Ce n'est pas impossible que le moqueur blasphème aussi, mais il va blasphémer, disons, dans un deuxième degré. C'est-à-dire qu'il va bouffonner, et ses bouffonneries seront des blasphèmes. L'hérétique, lui, est hostile à nos dogmes, de telle sorte que l'hérétique blasphème directement. Son intelligence est sous l'influence du démon. Et l'intelligence de l'indifférent est sous l'influence de sa propre stupidité. Faisons très attention, mes très chers frères, encore une fois, je le répète, à ne pas profaner nos dogmes, parce qu'ils risquent, en les exposant trop clairement à nos contemporains, pourquoi ? Eh bien parce qu'il se trouve que lorsqu'une fois qu'on a mal parlé de nos dogmes, lorsque nous nous retrouvons dans la prière, à l'église, face à Dieu, face à la réalité de ces dogmes, nous sommes comme souillés par la façon dont nous avons exposé ces dogmes. C'est pour cela que nous disons souvent, et nous le disons souvent lors de la fête du très saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par exemple, que nous ne devons jamais consentir, je fais un petit excursus, mais parce que c'est la même chose, nous ne devons jamais consentir à nommer notre Seigneur sans dire notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut jamais l'appeler, il ne faut jamais parler de lui, même comme l'Évangile parle de lui. Lorsque l'Évangile parle de notre Seigneur, il cite son nom. Pourquoi ? Mais parce que l'Évangile a le droit de le faire. Nous sommes là au cœur du mystère, nous sommes là au cœur du dogme. Mais lorsque nous citons le nom de notre Seigneur, disons toujours notre Seigneur, disons-le de la façon qui risque d'être le moins, où nous risquons le moins de profaner son nom béni. Même chose pour la Très Sainte Vierge Marie. Il vaut mieux dire Notre-Dame ou la Très Sainte Vierge ou la Très Sainte Vierge Marie. Il vaut mieux éviter de dire la Vierge parce que, même si ce n'est pas forcément faux de le dire, ce n'est pas une mauvaise chose de le dire, mais c'est une chose qui est très courante chez les modernistes, et donc nous ne sommes pas en réaction contre les modernistes, mais enfin, il faut quand même faire attention. Il y a une petite nuance, en évitant de dire la Sainte Vierge ou la Bienheureuse Vierge Marie, il y a une petite nuance, en quelque sorte diminuer l'honneur qu'on lui doit. Donc, évitons de dire la Vierge, disons la Très Sainte Vierge, Notre-Dame, si on veut, même si ça fait un peu pédant parfois. Ne disons jamais les noms de notre Seigneur et de sa Sainte Mère, tout cru comme cela. Nous ne sommes pas assez saints, pas assez purs pour les proférer, d'une façon qui soit directe et sans aucune autre, en quelque sorte, précaution, ornementation que leurs propres syllabes. Et surtout, si j'ose dire, les oreilles de ceux qui nous écoutent ne sont pas assez pures, ne sont pas assez bien disposées pour écouter ces paroles et ces noms divins. Il ne s'agit pas de faire des cachotteries, parce que tout le monde sait quels sont les noms de notre Dieu et de la Très Sainte Vierge Marie, mais il se trouve que nous devons faire attention à la manière dont nous en parlons, et même à la manière dont nous en parlons à nos enfants, et dont nous laissons, en quelque sorte, nous apprenons plutôt à nos enfants à en parler. Ce n'est pas parce que ce sont des petits-enfants, et ces petits-enfants sont plus innocents que les adultes, bien sûr, ça c'est vrai, puisqu'ils sont baptisés, et qu'ils vivent dans des foyers chrétiens, mais ce n'est pas parce que ce sont des enfants qu'il faut leur laisser dire les noms de notre Seigneur et de sa Sainte Mère, comme cela sans aucune marque formelle de vénération. Ce n'est pas qu'ils risquent de le profaner, parce que leur cœur est pur, mais il se trouve qu'ils vont prendre l'habitude de parler comme cela, et il vaut mieux dire, leur apprendre à dire « Notre Seigneur Jésus-Christ » ou « La Très Sainte Vierge » ou voilà, on peut, dans le cadre de l'intimité de la famille chrétienne, on peut parler de notre Seigneur et de sa Sainte Mère d'une façon qui témoigne l'affection que nous avons pour eux, bien entendu. Mais faisons attention à la manière dont nous parlons, dont nous nous découvrons en quelque sorte aux mécréants. Notre Seigneur l'a dit lui-même, ce sont des chiens et des pourceaux, et nous ne devons pas leur donner les perles qui nous ont été données par notre Père Céleste et qui sont le propre des enfants de Dieu. Nous devions dire ceci, même si c'est toujours un peu gênant et un peu triste d'avoir à parler en des termes durs des mécréants, mais ce sont des mécréants et leur intelligence est extrêmement basse, de telle sorte que leur intelligence des choses sacrées, de telle sorte que nous sommes responsables de la profanation du nom divin si nous parlons mal de nos dogmes sacrés aux oreilles de ces mécréants, de ces indifférents, de ces bouffons, de ces chiens, de ces pourceaux. Il faut faire attention, l'Écriture nous dit qu'il ne faut pas répondre à l'insensé selon sa folie. Venons-en maintenant à la prophétie d'Isaïe. Une vierge concevra et elle enfantera un fils. Cette prophétie d'Isaïe au roi Akaz a été donnée suite au refus un peu mystérieux, voire un peu étrange, de ce roi qui était un roi très pieux, à demander le signe que Dieu lui proposait qu'il lui demande. C'est-à-dire que le prophète Isaïe a dit au roi Akaz, demande un signe en haut ou en bas, et Dieu te le donnera. Et le roi Akaz a en quelque sorte été scrupuleux en disant, je ne demanderai pas à Dieu un signe. Alors, d'une certaine manière, tout au long des âges de l'Église, tout au long des époques de notre vie, nous ne devons pas demander à Dieu des signes, parce que c'est toujours une témérité de demander à Dieu des signes. Mais lorsque Dieu nous autorise à lui demander un signe, ce n'est pas le moment de faire le scrupuleux et d'avoir l'air plus, en quelque sorte, plus juste que Dieu. Et donc, la colère de Dieu, en quelque sorte, s'est enflammée contre le roi Akaz, et elle s'est manifestée par des paroles dures que le prophète Isaïe lui a dit, il lui a dit que sa famille lassait Dieu. Il y a quelque chose d'assez étrange là-dedans, où l'on voit que Dieu traite assez durement ceux qui ont la crainte de Dieu, même s'il traite d'une façon impitoyable ceux qui ne le craignent pas, mais lorsqu'on le craint, il ne faut pas s'imaginer que Dieu s'imagine qu'il nous doit quelque chose. Lorsque nous craignons Dieu et que nous sommes justes, eh bien Dieu s'attend à ce que nous soyons encore plus justes et que nous l'aimions encore plus. Et c'est pour cela qu'il nous traite assez vigoureusement, et proportionnellement, nous apercevons qu'il traite souvent plus durement ses propres enfants que les mécréants. Parce que les mécréants, il les traitera en bloc, bien sûr, à moins qu'ils ne se repentent, bien qu'ils ne fassent pénitence, mais il les traitera en bloc lors du jugement dernier. Ses enfants, il les purifie. Et le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Donc, le roi Akaz, qui était un bon roi, n'a pas demandé de signe, et Isaïe lui donne d'office, en quelque sorte, d'autorité, un signe, et il dit « Voici qu'une vierge concevra, et elle enfantera un fils, auquel elle donnera le nom d'Emmanuel. » Et c'est un signe qui devait se réaliser plusieurs centaines d'années plus tard. Les commentateurs nous disent que Dieu ayant été irrité par, en quelque sorte, la faiblesse de la foi ou les scrupules mal placés du roi Akaz, ils nous disent que Dieu permet cette merveille après que ce prince l'a mise en colère pour montrer que le Fils de Dieu viendrait dans le monde lorsque les hommes en seraient très indignes, et qu'il les sauverait par une pure miséricorde. D'une certaine manière, tout était prévu par Dieu, voulu par Dieu, et ce soudain scrupule du roi Akaz était voulu par Dieu pour montrer que Dieu n'enverrait son fils que lorsque les hommes ne le mériteraient strictement pas. Dieu n'a pas envoyé son fils à l'époque d'Adam repentant. Dieu n'a pas envoyé son fils à l'époque de Noé, le patriarche très obéissant. Dieu n'a pas envoyé son fils à l'époque d'Abraham, l'ami de Dieu. Dieu n'a pas envoyé son fils à l'époque de Joseph, le patriarche, qui était une figure du Messie. Dieu a envoyé, pourquoi ? Eh bien parce que d'une certaine manière, il y avait encore à cette époque-là des hommes si justes, si près de Dieu, si purs, que d'une certaine manière, le Messie aurait presque paru leur frère, plutôt que leur Dieu. Maintenant, le Fils éternel de Dieu s'est incarné, mes très chers frères, vers la fin des temps, lorsque les hommes étaient devenus absolument indignes de la miséricorde de Dieu. Et c'est alors que Dieu a fait miséricorde. C'est pour cela que nous ne devons pas désespérer de notre époque, qui est une époque tellement horrible, tellement dégénérée, parce que c'est lorsque les hommes méritent le moins la miséricorde de Dieu, que Dieu la leur manifeste. Il y a un grand mystère dans l'économie de la providence, dans cette façon de faire qui est très attestée dans l'Écriture et même dans l'histoire de l'Église. Bien sûr, la Bienheureuse Vierge Marie ne participait pas à l'indignité générale qui caractérisait sa génération. La Très Sainte Vierge Marie est la seule, nous dit la liturgie, qui a plu à Dieu. Elle ne participait pas à l'indignité générale car Dieu l'avait choisie, il l'avait sanctifiée, c'est-à-dire il l'avait mise à part et il l'avait préservée du péché originel. À aucun moment de sa vie, le diable n'a eu la moindre part, la moindre autorité sur la Très Sainte Vierge Marie. Dès le premier instant de sa conception, elle a été, en prévision des mérites de son fils, préservée, entièrement préservée, du péché originel, nous le savons. Et ce prodige est un sujet de louange, c'est pour cela que dans la deuxième partie de l'introïte, l'Église nous fait dire « Chantez au Seigneur un cantique nouveau, car il a opéré des prodiges ». Le prodige, dans la maternité divine de la Très Sainte Vierge Marie, est double en quelque sorte. Le fait que la Très Sainte Vierge a été préservée du péché originel en vertu des mérites anticipés, de l'application anticipée des mérites de son fils, et que, quoique vierge, elle ait enfanté un vrai homme qui est en même temps le vrai Dieu. Et c'est pour cela, mes très chers frères, que nous devons nous souvenir, nous devons savoir que chaque Ave Maria bien dit, loue Dieu par la Très Sainte Vierge Marie. Souvent nous nous disons à quoi bon répéter tous ces Ave Maria, la plupart du temps mon esprit divague et j'en passe la moitié. Eh bien, c'est bien dommage, mes très chers frères. Vous connaissez cette parole du Saint Curé d'Ars, hein, si les chrétiens savaient la puissance d'un seul Ave Maria bien dit. Eh bien, chaque fois que nous disons la salutation angélique, nous glorifions Dieu par la profération par deux fois du nom de la Très Sainte Vierge Marie et du nom de notre Seigneur Jésus-Christ, 33 syllabes après que nous ayons commencé à saluer la Sainte Vierge avec les mots mêmes de l'archange Saint Gabriel et des paroles de Sainte Élisabeth Sacuzzi. Il y a là quelque chose de merveilleux et de très encourageant, cette prière que nous connaissons bien, cette prière que nous répétons sans cesse, cette prière que nous disons au chapelet. Eh bien, il se trouve que cette prière nous met à même de louer et de glorifier Dieu, moyennant que nous fassions attention aux mots que nous proférons et que nous ayons conscience que cette profération du nom de la Très Sainte Vierge et du nom de son divin Fils, eh bien, loue Dieu, glorifie Dieu et donc ne peut pas ne pas nous attirer la bénédiction et la faveur divine, moyennant que nous fassions l'effort, avec l'aide de Dieu, de nous concentrer. Et ce Dieu qui est si proche de nous par la maternité divine de la Très Sainte Vierge Marie, c'est le Dieu qui a pour nom mystique Emmanuel. Emmanuel est un nom hébreu qui signifie « Dieu avec nous ». Personne dans l'Ancien Testament n'a porté le nom d'Emmanuel, et nous voyons que l'archange Gabriel, lorsque il annonce la future naissance de notre Seigneur, eh bien, il dit à Saint Joseph « Tu lui donneras le nom de Jésus », pas le nom d'Emmanuel. Emmanuel est le nom en quelque sorte secret. Le nom caché, le nom quintessentiel, si j'ose dire, du Christ, même si le nom de Jésus, bien entendu, est le nom qui sauve, le seul nom qui sauve, le nom adorable devant lequel tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et dans les enfers. Le nom d'Emmanuel est le nom qui décrit la réalité de la divino-humanité, Dieu avec nous. C'est pour cela que je vous fais remarquer que tous ceux qui ont fait de l'humour sur le président de la République actuel dont le prénom est Emmanuel, eh bien tous ceux qui ont fait de l'humour, qui ont lui qui se prend pour Jupiter, que sais-je, etc., qui ont fait de l'humour en lui mettant une auréole et en le comparant à notre Seigneur, même si c'était pour montrer qu'il ne l'était pas, etc., ce sont des impies. Ce sont des gens qui ont blasphémé, et si par malheur quelques chrétiens s'étaient allés à faire des commentaires sur le prénom du président, eh bien, il vaudrait mieux qu'il se confesse de ce péché, car c'est une profanation du nom de Dieu. Même si le pire de tous les mécréants s'appelait, comme dans les pays hispaniques, du nom même de notre Seigneur, ou s'appelle d'un autre nom de notre Seigneur, mais qui qualifie notre Seigneur, comme le nom d'Emmanuel, eh bien, nous devons l'attaquer, si tant est que ça soit utile et nécessaire, nous devons l'attaquer sous toutes les autres coutures, sauf celle-là. Pourquoi ? Parce que le nom de Dieu appartient à Dieu, et même s'il est porté par des personnages peu recommandables, c'est le nom de Dieu, et c'est un nom que nous devons vénérer. Si nous nous moquons du nom de notre Seigneur parce qu'il est mal porté par quelqu'un, ce n'est pas de cette personne-là que nous nous moquons, c'est de celui dont il porte le nom, quoique indignement. Faisons très attention, mes très chers frères. Je vous assure que le chrétien qui aurait la discipline, à chaque fois qu'il prononce le nom divin de notre Sauveur, de faire un léger signe de tête, un léger abaissement de tête pour marquer qu'il adore ce nom divin. Le chrétien prenait la peine de ne jamais proférer ce nom divin sans l'accompagner quand c'est nécessaire, sans l'accompagner des marques dont nous avons parlé, des marques de vénération et de respect, s'il prenait l'habitude de ne jamais parler de notre Seigneur, de ne jamais insulter ceux qui portent indignement son nom, véritablement cette personne, très rapidement, parce que c'est une pratique sacrée et que cela glorifie réellement le nom de Dieu, cette personne ferait des progrès spirituellement, ou du moins, elle serait sur un terrain où elle peut faire des progrès spirituellement. Et ce qui implique que si elle ne fait pas ses efforts, elle ne peut pas faire de progrès spirituel. Vous allez dire, il y a d'autres choses à faire que de faire des signes de tête. Oui, sans doute, mais si on ne commence pas à faire cela, alors on est prêt à tous les blasphèmes. Et le blasphème n'est pas un terreau favorable à la croissance dans la grâce et dans la spiritualité. Donc, notre Seigneur s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous, attention, c'est pas comme certaines armées qui avaient sur les boucles, les boucles des ceinturons, Dieu avec nous, et puis du coup, il s'est avéré qu'il n'était pas vraiment avec eux. Non, apparemment, non. Dieu n'est pas avec nous comme un supplément d'âme, ou comme un gage de victoire temporelle, de nous, de notre cause. Dieu est avec nous comme celui sans lequel nous ne pouvons rien. Mais nous ne pouvons rien pour le royaume des cieux. Il nous a été donné à cause de notre indignité et de notre impuissance, ce Dieu, ce Fils de Dieu. Ce Fils de Dieu, Emmanuel, nous a mérité le ciel. Nous étions incapables de nous réconcilier avec Dieu, mes très chers frères, et même nous ne voulions pas. Ça, c'est un lieu commun de la théologie. Non seulement l'homme était incapable de se réconcilier avec Dieu, non seulement il n'y pensait absolument pas, mais même s'il y avait pensé par impossible, il ne l'aurait pas voulu. Il a fallu que le Fils éternel de Dieu descende du ciel, prenne et assume la nature humaine, afin de pouvoir nous communiquer, comme nous l'avons vu la dimanche dernier, nous communiquer sa divinité dans cet échange admirable, où prenant l'oripeau de cette loque, cette loque et cet oripeau de chair qui est le nôtre depuis la chute, eh bien, il nous a donné en échange son humanité. Sa divinité, il a pris son humanité sainte, bien sûr, mais qui est gage de sa divinité, bien entendu, et tout ceci culmine dans le mystère de la communion, la sainte communion. Le Christ est la cause formelle de la grâce sanctifiante. Emmanuel, c'est donc Dieu avec nous, c'est-à-dire Dieu en nous, par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne se contente pas de nous donner la grâce de Dieu, il ne se contente pas de nous réconcilier avec son Père, il fait de nous les fils de ce Père en lui-même. Les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ sont la cause formelle de notre propre justice. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas plaire à Dieu si nous ne sommes pas identifiés au Christ, qui est le Fils éternel de Dieu. Dans l'oraison que l'Église nous fait prier aujourd'hui, nous disons ceci. « Ô Dieu qui avez voulu qu'à la parole de l'ange, votre Verbe prit chair dans le sein de la Bienheureuse Vierge Marie, accordez à nos prières qu'en honorant celle que nous croyons véritablement Mère de Dieu, nous ayons un appui auprès de vous par son intercession. » Honorer la Bienheureuse Vierge Marie de façon orthodoxe, c'est adorer convenablement son Fils. Nous ne pouvons pas bénéficier de la grâce sanctifiante si nous ne reconnaissons pas en la Très-Sainte Vierge Marie la Mère de Dieu. Parce que nous croyons véritablement que la Très-Sainte Vierge est la Mère de Dieu. Les hérétiques se privent de la grâce du Christ en disputant à la Bienheureuse Vierge Marie son privilège. Honorer la Très-Sainte Vierge Marie, mes très chers frères, c'est ne jamais la dissocier de son divin Fils. Il est une façon de lui refuser les honneurs que lui rend la tradition, l'Église, et ce sont les hérétiques, pas spécialement les protestants. Mais il est une façon aussi, et qui est plus subtile bien sûr, c'est de rendre des honneurs indépendants du Christ à la Très-Sainte Vierge Marie. Il ne faut pas la dissocier de son divin Fils. Il ne faut pas forcément se sentir obligé de l'associer constamment à son divin Fils, dans le sens où on ne pourrait pas parler de la Très-Sainte Vierge Marie sans, à un moment ou un autre, parler du Christ. Il y a un temps pour tout, bien entendu. Nous pouvons parler de la Très-Sainte Vierge Marie, mais en même temps, en la distinguant de son Fils, bien entendu. Mais il ne faut jamais la séparer. Il y a des gens, en quelque sorte, comme je le dis souvent, parce que je l'ai vu, je l'ai entendu, qui, d'une certaine manière, honorent d'autant plus la Très-Sainte Vierge Marie qu'ils méprisent le Christ. Et ils l'honorent d'autant plus qu'ils s'imaginent que le Christ a connu un échec, et que désormais, au règne du Fils doit succéder le règne de la Mère, et comme disait une hérétique, après la foi du Fils, nous devons avoir la foi de la Mère. Il y a quelque chose de monstrueux là-dedans. La Très-Sainte Vierge Marie ne peut jamais supplanter son Fils, puisque c'est par elle que nous avons son Fils, et c'est pour cela qu'elle est appelée le siège, le trône de la sagesse. Elle est celle sur laquelle repose le Fils éternel de Dieu, notre Sauveur. Donc il s'agit de faire attention de ne pas tomber dans un culte superstitieux, qui ça peut arriver. Évidemment, on ne le trouvera pas chez les protestants, on le trouvera plutôt chez ceux qui ne sont pas hérétiques de cette manière-là. Mais il faut faire attention, mes très chers frères, de ne pas tomber dans un culte superstitieux. Le culte superstitieux de la Très-Sainte Vierge Marie consiste à la dissocier radicalement de son Fils et même à l'opposer à elle. Et c'est pour ça qu'il y a toute une façon de parler de la Très-Sainte Vierge Marie qui est fausse, quand on dit que la voie pour aller au ciel du Christ, que nous propose le Christ, est très difficile, et donc il faut prendre la voie de la Très-Sainte Vierge Marie. Sous un certain rapport, comme il y a un peu de vrai en tout, il y a quelque chose qui peut être compris dans cette façon de parler. Mais lorsqu'on la prend trop univoquement, on s'imagine qu'il y a deux voies de salut, le Christ et la Sainte Vierge, qu'une voie est très difficile, rébarbative, et c'est celle du Fils, et une est très facile, c'est celle de la Mère. Non ! La voie que nous propose la Sainte Vierge pour aller au ciel, c'est d'aimer son Fils, de l'adorer et de se conformer à lui. C'est pour cela qu'elle nous dit, dans ces rares paroles qui sont divines, qu'elle profère pour nous dans l'Évangile, elle nous dit « faites tout ce qu'il vous dira ». C'est le mot d'ordre de la bienheureuse Vierge Marie aux croyants que nous sommes. Si nous recourons à elle, c'est pour qu'elle nous mène à notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu avec nous, Emmanuel, et pour nous faire que nous devenions obéissants à lui comme elle a été obéissante à Dieu. C'est pour cela, en troisième point, que, mes très chers frères, nous voyons que lorsque dans l'Évangile, la Sainte Vierge dit à son fils, mon fils, pourquoi avez-vous agi ainsi avec nous, l'évangile de recouvrement de l'enfant Jésus au temple, voici que votre père et moi, nous vous cherchions. Il y a quelque chose de mystérieux dans ces paroles, où l'on dirait que la très sainte Vierge Marie oublie complètement la divinité de son fils, oublie complètement sa maternité divine, oublie complètement que Saint Joseph est le père adoptif de notre Seigneur, et pourtant ces paroles sont vraies, ces paroles sont les seules qui ont pu être proférées, puisqu'elles sont celles de l'Évangile. En nous menant à son divin Fils, la Mère de Dieu, mes très chers frères, nous apprend aussi à rechercher auprès de lui sa volonté à lui et non la nôtre. La Sainte Vierge et Saint Joseph cherchaient parmi leurs connaissances et leurs parents l'enfant qui était le leur. Ils ne l'ont pas trouvé, et quand ils l'ont trouvé, ils ont trouvé le Fils de Dieu. Bien souvent, mes très chers frères, nous cherchons notre Seigneur pour des raisons qui ne sont pas des raisons qui sont saines et qui sont saintes. Par exemple, nous cherchons notre Seigneur pour avoir un mot d'ordre pour combattre les ennemis de la foi, les ennemis de l'Église, les ennemis de la société chrétienne. Alors, vous allez dire, mais ça veut dire donc qu'il ne faut... Attendez. Lorsque nous cherchons notre Seigneur de cette manière-là, lorsque nous cherchons notre Seigneur comme un mot d'ordre, lorsque nous cherchons en lui un mot d'ordre, un mot de ralliement auprès de tous les hommes de bonne volonté, hein, entre guillemets, avec plusieurs guillemets, il se trouve que nous nous condamnons à ne pas le trouver. Vous allez dire, concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Bien, c'est très simple. Lorsque nous essayons de nous mettre sous le même joug avec les infidèles pour tirer la bonne charrue dans le bon sens, si j'ose dire, ce n'est pas que nous ne déployons pas des grands trésors de bonne volonté. Ça, je ne le nie pas. Mais c'est que nous nous condamnons à l'échec le plus cuisant. Et si par hasard, dans notre perspective, nous arrivions à quelque chose, cette chose-là ne serait pas agréée par Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu ne le veut pas. Bien souvent, nous disons « Dieu le veut, parce que c'est ceci, cela ». Non, non, attendez, est-ce que Dieu le veut vraiment ? Qu'est-ce que Dieu veut ? Vous voyez, Dieu ne veut pas que nous nous souillions avec le monde. Ce que Dieu veut, dit Saint Paul, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez des souillures du monde. Lors donc que nous nous tournons vers notre prochain, qui n'est peut-être pas le prochain le plus corrompu, le plus dégénéré que nous puissions trouver autour de nous, et que nous faisons en quelque sorte du Christ, c'est-à-dire de la culture chrétienne, le mot d'ordre, le mot de ralliement, lorsque nous faisons, en quelque sorte, nous réduisons le prétendu message du Christ à quelque chose qui va dans le sens inverse du message de haine, etc., des uns ou des autres, eh bien, mes très chers frères, nous nous trompons complètement et nous nous condamnons à ne pas trouver le Christ. Nous nous condamnons à ne pas errer pendant 3 jours dans l'angoisse, et bienheureux sommes-nous si nous sommes vraiment dans l'angoisse, si nous ressentons que ce que nous faisons est stérile, est impuissant, et surtout n'est pas voulu par Dieu. Mon fils, pourquoi avez-vous agi de la sorte avec nous ? C'était le moment ou jamais pour le Fils éternel de Dieu de manifester, d'une façon très univoque, le quatrième commandement, son obéissance au quatrième commandement, en disant « Ma très chère mère, mon très cher père, je suis absolument désolé de vous avoir fait faux bond. Voyez-vous, la passion pour les sujets théologiques me tient tellement que je suis resté à Jérusalem, je suis allé dans un cybercafé où j'ai fait un blog, etc. » Non, c'était le moment ou jamais, pour notre Seigneur, si j'ose dire, blague à part, de présenter ses excuses pour avoir plongé sa mère et Saint Joseph dans l'angoisse. Que dit notre Seigneur ? Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon père ? Quelle parole autoritative ! Aucun enfant ne peut parler comme cela à ses parents s'il n'est pas Dieu. C'est ce que le Fils éternel de Dieu dit à la mère de Dieu. Pourquoi me cherchiez-vous ? Elle vient de lui dire, nous vous cherchions avec tout en peine, dans une grande angoisse. Et chez Pater Tuus, c'est ego dolentes, nous avions mal, nous souffrions. Et notre Seigneur ne dit pas, venez, je vais vous consoler, ou pardonnez-moi de vous avoir fait souffrir. Il dit, pourquoi me cherchiez-vous ? À tous ceux qui le cherchent là où ils ne sont pas, ou là où il n'est pas, notre Seigneur dit, pourquoi me cherchez-vous de la sorte ? Ne savez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon Père ? Alors vous allez dire, oui, mais tout ça, ça revient au fait qu'en fait, comme on ne peut pas s'associer avec des gens qui sont dans nos idées sans être à strictement parler catholiques, alors donc du coup, il faut rester dans le ghetto, il faut rester... Êtes-vous vraiment dans le ghetto, mes très chers frères ? Le ghetto, je vous fais remarquer que c'est un endroit où tous ceux qui se ressemblent vivent ensemble, dans une très grande, sinon une très grande harmonie, du moins une très grande proximité et une très grande réalité, une très grande communion. La réalité, mes très chers frères, c'est que si nous cherchons notre Seigneur parmi les mécréants, c'est que nous sommes nous-mêmes des demi ou des aux trois quarts mécréants. C'est que nous ne voulons pas renoncer aux amitiés que nous avons dans le monde. Vous allez dire, mais ce monde-là, c'est un monde, c'est le bon monde, c'est le monde bien pensant, c'est pas le monde des gauchistes, des mécréants. Oui, j'espère bien, mais ce n'est pas encore assez. Notre Seigneur nous dira, pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon Père ? La très sainte Vierge Marie, lorsque nous prétendons être ses dévots, ce qu'il faut être, et que nous prétendons la vénérer, et que nous ne mettons pas en pratique la foi et la déontologie, si j'ose dire, c'est-à-dire l'orthopraxie catholique, alors il ne faut pas s'étonner que nous cherchions en vain notre Seigneur, et que nous cherchions notre Seigneur, et que nous finissions par trouver Jeanne d'Arc, la Jeanne d'Arc des Républicains, qui est devenue la Jeanne d'Arc des catholiques, en quelque sorte, je ne parle pas de la sainte qui est au ciel, mais cette sorte de figure nationaliste qui boute les ennemis hors du pays. Enfin, et qu'est-ce que c'est dans le fond, à strictement parler, abstraction faite, quand on ouvre les yeux, et abstraction faite de la réalité de la mission de la Sainte Jeanne d'Arc historique, c'est une femme qui n'est pas à sa place, qui porte des vêtements d'homme, qui parle trop, qui guide les hommes, c'est exactement tout ce qu'il ne faut pas suivre. Vous voyez, mes très chers frères, lorsque nous cherchons mal notre Seigneur, nous allons trouver toutes sortes de choses sauf lui. Mais à ceux qui le cherchent véritablement, il nous dira, après que nous ayons reconnu que nous le cherchions mal, il nous dira, pourquoi me cherchiez-vous ? Pourquoi me cherchiez-vous mal ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon Père, c'est-à-dire ne savez-vous pas qu'il faut que vous cherchiez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et que tout le reste vous sera donné par surcroît ? Ne savez-vous pas qu'il faut que vous soyez obéissant à Dieu, imitant la très sainte Vierge Marie dans son fiat, et notre Seigneur au jardin de Gethsémani, qui a dit « non pas ma volonté mais la vôtre ». Ne savez-vous pas, mes très chers frères, qu'il faut que nous cherchions notre Seigneur Jésus-Christ, dans aucun autre but que le but de notre salut, et que notre salut passe fondamentalement et foncièrement par la réalisation de notre devoir d'État. Faire autrement, c'est inverser l'ordre des choses. Alors vous allez dire, oui, donc finalement, vous êtes une sorte de surnaturaliste qui ne s'intéresse pas aux politiques. Si, mes très chers frères, je m'y intéresse, enfin si cette expression a un sens, comme étant tout ce qui est par surcroît et qui nous sera donné immanquablement et infailliblement par Dieu. Et dans la mesure où d'abord, nous cherchons le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste nous sera donné par surcroît. Le reste, c'est le manger, le boire, le vêtir, c'est-à-dire le fond même du politique. Afin que nous le cherchions de la bonne façon, notre Seigneur Jésus-Christ se dérobe à notre concupiscence. C'est pour cela que Saint Jacques dit « Vous demandez et vous n'obtenez pas, parce que vous demandez mal, afin de satisfaire vos concupiscences. Je voudrais triompher dans le monde, je voudrais mettre tout le monde sur le bûcher, je voudrais être à l'Élysée et promulguer des lois catholiques. Eh bien, vous ne trouverez jamais le Christ. Pourquoi ? Est-ce que ce n'est pas légitime ? Non, ce n'est pas légitime. Parce que le Christ ne vous l'a pas demandé. Le Christ ne le veut pas. Vous demandez, vous cherchez notre Seigneur, Mais il se dérobe à votre concupiscence, mes très chers frères. Aussi, vous demandez et vous n'obtenez pas. Et vous êtes dans l'angoisse, et vous êtes dans l'impuissance et dans la ruine. Il se dérobe aussi à notre adoration désordonnée. C'est pour cela que dans l'Évangile, il est dit, sachant qu'ils allaient le faire roi, il se déroba à eux, il se cacha. Alors, vous allez dire, c'était le moment ou jamais, les Juifs étaient bien disposés pour une fois, et en plus, ils voulaient le faire roi, et après tout, le Christ est le Christ roi, puisqu'il l'a dit lui-même à Pilate. Oui, mais le problème, c'était qu'il voulait le faire roi pour eux, et non pas pour lui. Il ne reconnaissait pas sa divinité, il reconnaissait son utilité publique. Le Christ était devenu un phénomène d'utilité publique. Et le Christ, lorsqu'on l'adore de cette manière-là, ou qu'on le recherche de cette manière-là, il se dérobe. Et c'est pour cela qu'il se dérobe, mes très chers frères, à nous, de presque de toutes les manières, sauf par l'Eucharistie, heureusement, mais il se dérobe à nous depuis que nous avons apostasié, depuis que nous courons après la modernité, depuis que nous avons rejeté les sentiers de nos pères, depuis que nous avons rejeté la religion de nos pères, et que nous avons inventé une nouvelle religion, fondée sur des fondements sablonneux, il se dérobe à nous. Heureusement qu'il ne se dérobe pas entièrement à nous, puisqu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais qui sera avec le Christ jusqu'à la fin du monde? Il y a même des gens qui disent que le temps avec lequel, pour lequel, la longueur du temps pour laquelle le Christ nous a assuré qu'il était avec nous est fini. Et donc ces gens-là ne sont plus avec le Christ. Le Christ n'est plus avec nous, mes très chers frères. Le Christ sera avec nous jusqu'à la fin du monde, ça c'est une certitude de foi. Maintenant, il se trouve que nous devons demander la persévérance, et pour demander la persévérance, nous devons avoir les actes de la persévérance. La persévérance, qu'est-ce que c'est? C'est les actes de la persévérance, c'est l'obéissance, la recherche d'abord et avant tout fondamentale du royaume de Dieu et de sa justice. La clé du bonheur dépend de la compréhension, de l'acceptation plus précisément de ce que nous venons de dire. Et la clé du bonheur nous est donnée, nous est révélée dans la secrète. Que par votre miséricordieuse bonté, Seigneur, et par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, cette oblation nous procure, pour l'éternité et pour la vie présente, le bonheur et la paix. Prosperitatem et pacem. On n'ose même pas le dire en français, la prospérité et la paix. Eh bien, mes très chers frères, tant temporelle qu'éternelle, nous pouvons l'avoir. C'est mystérieux, vous allez dire, comment? Comment si on... Ah, attendez, en cherchant d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Vous allez dire, mais c'est du spiritualisme. Si c'est du spiritualisme, alors vous n'êtes pas chrétien. Parce que si vous étiez chrétien, vous rechercheriez le royaume de Dieu et sa justice, et si vous le recherchiez, ce royaume de Dieu et sa justice, de la bonne façon, et non pas mu par la concupiscence, vous recevriez aussi tout le reste. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez pour satisfaire votre convoitise, votre concupiscence. La grâce de Dieu et l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, c'est cela qui fonde, en quelque sorte, notre espérance. Recourir à la Très Sainte Vierge et imiter sa soumission à Dieu, mes très chers frères, c'est cela, vénérer véritablement la Mère de Dieu. Recourir à elle et imiter son silence méditatif et adorateur, quand elle ne comprenait pas ce que notre Seigneur Jésus-Christ lui disait, c'est cela, craindre, aimer, adorer, obéir, travailler, être véritablement les enfants de la Mère de Dieu. Eh bien, mes très chers frères, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et nous serons véritablement les enfants de notre Père céleste, et nous serons véritablement les enfants de celle qui est la Mère de Dieu et notre Mère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci.